Lettre 96, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Je parie bien que depuis votre aventure, vous attendez chaque jour mes compliments et mes éloges. Je ne doute même pas que vous n'ayez pris un peu d'humeur de mon long silence. Mais que voulez-vous ? J'ai toujours pensé que quand il n'y avait plus que des louanges à donner à une femme, on pouvait s'en reposer sur elle et s'occuper d'autre chose. Cependant, je vous remercie pour mon compte et vous félicite pour le vôtre. Je veux bien même, pour vous rendre parfaitement heureuse, convenir que pour cette fois, vous avez surpassé mon attente. Après cela, voyons si de mon côté, j'aurais du moins rempli la vôtre en partie. Ce n'est pas de Madame de Tourvel dont je veux vous parler. Sa marche trop lente vous déplaît. Vous n'aimez que les affaires faites. Les scènes filées vous ennuient. Et moi, jamais je n'avais goûté le plaisir que j'éprouve dans ces lenteurs prétendues. Oui. J'aime à voir, à considérer cette femme prudente, engagée, sans s'en être aperçue, dans un sentier qui ne permet plus de retour, et dont la pente rapide et dangereuse l'entraîne malgré elle, et la force à me suivre. Là, effrayée du péril qu'elle court, elle voudrait s'arrêter et ne peut se retenir. Ses soins et son adresse peuvent bien rendre ses pas moins grands, mais il faut qu'ils se succèdent. Quelquefois, n'osant fixer le danger, elle ferme les yeux, et se laissant aller s'abandonne à mes soins. Plus souvent, une nouvelle crainte ranime ses efforts. Dans son effroi mortel, elle veut tenter encore de retourner en arrière. Elle épuise ses forces pour gravir péniblement un court espace. Et bientôt un magique pouvoir la replace plus près de ce danger que vainement elle avait voulu fuir. Alors, n'ayant plus que moi pour guide et pour appui, sans songer à me reprocher davantage une chute inévitable, elle m'implore pour la retarder. Les ferventes prières, les humbles supplications, tout ce que les mortels dans leur crainte offrent à la divinité, c'est moi qui le reçois d'elle. Et vous voulez que, sourd à ses vœux, et détruisant moi-même le culte qu'elle me rend, j'emploie à la précipiter la puissance qu'elle invoque pour la soutenir ? Ah, laissez-moi du moins le temps d'observer ces touchants combats entre l'amour et la vertu. Et quoi ? Ce même spectacle qui vous fait courir au théâtre avec empressement, que vous y applaudissez avec fureur, le croyez-vous moins attachant à la réalité ? Ces sentiments d'une âme pure et tendre, qui redoute le bonheur qu'elle désire, et ne cesse pas de se défendre alors même qu'elle cesse de résister, vous les écoutez avec enthousiasme. Ne serait-il sans prix que pour celui qui les fait naître ? Voilà pourtant, voilà les délicieuses jouissances que cette femme céleste m'offre chaque jour. Et vous me reprochez d'en savourer les douceurs. Oh, le temps ne viendra que trop tôt, où, dégradée par sa chute, elle ne sera plus pour moi qu'une femme ordinaire. Mais j'oublie en vous parlant d'elle que je ne voulais pas vous en parler. Je ne sais quelle puissance m'y attache, m'y ramène sans cesse, même alors que je l'outrage. Écartons sa dangereuse idée. Que je redevienne moi-même, pour traiter un sujet plus gai. Il s'agit de votre pupille, à présent devenue la mienne, et j'espère qu'ici, vous allez me reconnaître. Depuis quelques jours, mieux traitée par ma tendre dévote et par conséquent, moins occupée d'elle, j'avais remarqué que la petite Volange était en effet fort jolie, et que s'il y avait de la sottise à en être amoureux comme Danceny, peut-être n'y en avait-il pas moins de ma part, à ne pas chercher auprès d'elle une distraction que ma solitude me rendait nécessaire. Il me parut juste aussi de me payer des soins que je me donnais pour elle. Je me rappelais en outre que vous me l'aviez offerte, avant que Danceny eût rien à y prétendre, et je me trouvais fondée à réclamer quelques droits, sur un bien qu'il ne possédait qu'à mon refus et par mon abandon. La jolie mine de la petite personne, sa bouche si fraîche, son air enfantin, sa gaucherie même, fortifier ces sages réflexions. Je résolus d'agir en conséquence, et le succès a couronné l'entreprise. Déjà, vous cherchez par quels moyens j'ai supplanté si tôt l'amant chéri. Quelle séduction convient à cet âge, à cette inexpérience. Épargnez-vous tant de peine. Je n'en ai employé aucune. Tandis que, maniant avec adresse les armes de votre sexe, vous triomphiez par la finesse, moi, rendant à l'homme ses droits imprescriptibles, je subjuguais par l'autorité. Sûr de saisir ma proie si je pouvais la joindre, je n'avais besoin de ruse que pour m'en approcher. et même celle dont je me suis servi ne mérite presque pas ce nom. Je profitai de la première lettre que je reçus de Danceny pour sa belle, et après l'en avoir avertie par le signal convenu entre nous, au lieu de mettre mon adresse à la lui rendre, je la mis à n'en pas trouver le moyen. Cette impatience que je faisais naître, je feignais de la partager, et après avoir causé le mal, j'indiquai le remède. La jeune personne habite une chambre dont une porte donne sur le corridor. Mais comme de raison, la mère en avait pris la clé. Il ne s'agissait que de s'en rendre maître. Rien de plus facile dans l'exécution, je ne demandais que d'en disposer 2 heures, et je répondais d'en avoir une semblable. Alors, correspondance, entrevue, rendez-vous nocturne, tout devenait commode et sûr. Cependant, le croiriez-vous, l'enfant timide prit peur et refusa. Un autre s'en serait désolé. Moi, je n'y vis que l'occasion d'un plaisir plus piquant. J'écrivis à Danceny pour me plaindre de ce refus. Et je fis si bien que notre étourdi n'eut de cesse qu'il n'eût obtenu, exigé même de sa craintive maîtresse, qu'elle accorda ma demande et se livra tout à ma discrétion. J'étais bien aise, je l'avoue, d'avoir ainsi changé de rôle, et que le jeune homme fit pour moi ce qu'il comptait que je ferais pour lui. Cette idée doublait à mes yeux le prix de l'aventure. Aussi, dès que j'ai eu la précieuse clé, me suis-je hâtée d'en faire usage. C'était la nuit dernière. Après m'être assurée que tout était tranquille dans le château, armée de ma lanterne sourde, et dans la toilette que comportait l'heure et qu'exigeait la circonstance, j'ai rendu ma première visite à votre pupille. J'avais tout fait préparer, et cela par elle-même, pour pouvoir entrer sans bruit. Elle était dans son premier sommeil et dans celui de son âge, de façon que je suis arrivée jusqu'à son lit sans qu'elle se soit réveillée. J'ai d'abord été tentée d'aller plus avant et d'essayer de passer pour un songe. Mais craignant l'effet de la surprise et le bruit qu'elle entraîne, j'ai préféré d'éveiller avec précaution la jolie dormeuse, et je suis en effet parvenue à prévenir le cri que je redoutais. Après avoir calmé ses premières craintes, comme je n'étais pas venue là pour causer, j'ai risqué quelques libertés. Sans doute, on ne lui a pas bien appris dans son couvent à combien de périls divers est exposée la timide innocence, et tout ce qu'elle a à garder pour n'être pas surprise. Car, portant toute son attention, toutes ses forces à se défendre d'un baiser qui n'était qu'une fausse attaque, tout le reste était laissé sans défense. Le moyen de n'en pas profiter. J'ai donc changé ma marche, et sur le champ, j'ai pris poste. Ici, nous avons pensé être perdus tous deux. La petite fille, tout effarouchée, a voulu crier de bonne foi. Heureusement, sa voix s'est éteinte dans les pleurs. Elle s'était jetée aussi au cordon de sa sonnette, mais mon adresse a retenu son bras à temps. « Que voulez-vous faire ? » lui ai-je dit alors. « Vous perdre pour toujours ? Qu'on vienne, et que m'importe. À qui persuaderez-vous que je ne suis pas ici de votre aveu ? Quel autre que vous m'aura fourni le moyen de m'y introduire ? Et cette clé que je tiens de vous, que je n'ai pu avoir que par vous, vous chargerez-vous d'en indiquer l'usage ? » Cette courte harangue n'a calmé ni la douleur, ni la colère, mais elle a amené la soumission. Je ne sais si j'avais le ton de l'éloquence, au moins est-il vrai que je n'en avais pas le geste. Une main occupée pour la force, l'autre pour l'amour, quel orateur pourrait prétendre à la grâce en pareille situation ? Si vous vous la peignez bien, vous conviendrez qu'au moins elle était favorable à l'attaque. Mais moi je n'entends rien à rien, et comme vous dites, la femme la plus simple, une pensionnaire, me mène comme un enfant. Celle-ci, tout en se désolant, sentait qu'il fallait prendre un parti et entrer en composition. Les prières me trouvant inexorables, il a fallu passer aux offres. Vous croyez que j'ai vendu bien cher ce poste important ? Non. J'ai tout promis pour un baiser. Il est vrai que le baiser pris, je n'ai pas tenu ma promesse, mais j'avais de bonnes raisons. Étions-nous convenus qu'il serait pris ou donné ? À force de marchander, nous sommes tombés d'accord pour un second. Et celui-là, il était dit qu'il serait reçu. Alors, ayant guidé les bras timides autour de mon corps et la pressant de l'un des miens plus amoureusement, le doux baiser a été reçu, en effet, mais bien, mais parfaitement reçu, tellement enfin que l'amour n'aurait pas pu mieux faire. tant de bonne foi méritait récompense. Aussi ai-je aussitôt accordé la demande. La main s'est retirée, mais je ne sais par quel hasard je me suis trouvé moi-même à sa place. Vous me supposez là bien empressé, bien actif, n'est-il pas vrai ? Point du tout. J'ai pris goût aux lenteurs, vous dis-je. Une fois sûr d'arriver, pourquoi t'empresser le voyage ? Sérieusement, j'étais bien aise d'observer une fois la puissance de l'occasion, et je la trouvais ici dénuée de tout secours étranger. Elle avait pourtant à combattre l'amour, et l'amour soutenu par la pudeur ou la honte, et fortifié surtout par l'humeur que j'avais donnée, et dont on avait beaucoup pris. L'occasion était seule, mais elle était là, toujours offerte, toujours présente, et l'amour était absent. Pour assurer mes observations, j'avais la malice de n'employer de force que ce qu'on en pouvait combattre. Seulement, si ma charmante ennemie, abusant de ma facilité, se trouvait prête à m'échapper, je la contenais par cette même crainte dont j'avais déjà éprouvé les heureux effets. Eh bien, sans autre soin, la tendre amoureuse, oubliant ses serments, a cédé d'abord et finit par consentir. Non pas qu'après ce premier moment, les reproches et les larmes ne soient revenus de concert. J'ignore s'ils étaient vrais ou feints, mais comme il arrive toujours, ils ont cessé dès que je me suis occupée à y donner lieu de nouveau. Enfin, de faiblesse en reproche et de reproche en faiblesse, nous ne nous sommes séparés que satisfaits l'un de l'autre, et également d'accord pour le rendez-vous de ce soir. Je ne me suis retirée chez moi qu'au point du jour, et j'étais rendue de fatigue et de sommeil. Cependant, j'ai sacrifié l'un et l'autre au désir de me trouver ce matin au déjeuner. J'aime de passion les mines du lendemain. Vous n'avez pas d'idée de celle-ci. C'était un embarras dans le maintien, une difficulté dans la marche, des yeux toujours baissés, et si gros, et si battus. Cette figure si ronde s'était tant allongée. Rien n'était si plaisant. Et pour la première fois, sa mère, alarmée de ce changement extrême, lui témoignait un intérêt assez tendre. Et la présidente aussi, qui s'empressait autour d'elle. Oh, pour ces soins-là, ils ne sont que prêtés. Un jour viendra où on pourra les lui rendre. Et ce jour n'est pas loin. Adieu, ma belle amie. Du château de ce 1er octobre 1700. Lettre 97, Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Ah, mon Dieu, madame, que je suis affligée, que je suis malheureuse. Qui me consolera dans mes peines ? Qui me conseillera dans l'embarras où je me trouve ? Ce monsieur de Valmont et Danceny. Non, l'idée de Danceny me met au désespoir. Comment vous raconter ? Comment vous dire ? Je ne sais comment faire. Cependant, mon cœur est plein. Il faut que je parle à quelqu'un. Et vous êtes la seule à qui je puisse, à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi. Mais n'en ayez pas dans ce moment-ci. Je n'en suis pas digne. Que vous dirais-je ? Je ne le désire point. Tout le monde ici m'a témoigné de l'intérêt aujourd'hui. Ils ont tous augmenté ma peine. Je sentais tant que je ne le méritais pas. Grondez-moi, au contraire, grondez-moi bien, car je suis bien coupable. Mais après, sauvez-moi. Si vous n'avez pas la bonté de me conseiller, je mourrai de chagrin. Apprenez donc. Ma main tremble, comme vous voyez. Je ne peux presque pas écrire, je me sens le visage tout en feu. Ah, c'est bien le rouge de la honte. Eh bien, je la souffrirai. Ce sera la première punition de ma faute. Oui, je vous dirai tout. Vous saurez donc que M. de Valmont, qui m'a remis jusqu'ici les lettres de M. Danceny, a trouvé tout d'un coup que c'était trop difficile. Il a voulu avoir une clé de ma chambre. Je puis bien vous assurer que je ne voulais pas. Mais il a été en écrire à Danceny, et Danceny l'a voulu aussi. Et moi, ça me fait tant de peine quand je lui refuse quelque chose, surtout depuis mon absence, qui le rend si malheureux, que j'ai fini par y consentir. Je ne prévoyais pas le malheur qui en arriverait. Hier, M. de Valmont s'est servi de cette clé pour venir dans ma chambre, comme j'étais endormie. Je m'y attendais si peu qu'il m'a fait bien peur en me réveillant. Mais comme il m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Et puis l'idée m'est venue d'abord qu'il venait peut-être m'apporter une lettre de Danceny. C'en était bien loin. Un petit moment après, il a voulu m'embrasser. Et pendant que je me défendais, comme c'est naturel, il a si bien fait que je n'aurais pas voulu pour toute chose au monde. Mais lui voulait un baiser auparavant. Il a bien fallu, car comment faire? D'autant que j'avais essayé d'appeler, mais outre que je n'ai pas pu, il a bien su me dire que s'il venait quelqu'un, il saurait bien rejeter toute la faute sur moi. Et en effet, c'était bien facile à cause de cette clé. Ensuite, il ne s'est pas retiré davantage. Il en a voulu un second. Et celui-là, je ne savais pas ce qui en était. Mais il m'a tout troublée. Et après, c'était encore pire qu'auparavant. Oh, par exemple, c'est bien mal, ça. Enfin, après, vous m'exempterez bien de dire le reste. Mais je suis malheureuse autant qu'on peut l'être. Ce que je me reproche le plus, et dont pourtant il faut que je vous parle, c'est que j'ai peur de ne pas m'être défendue autant que je le pouvais. Je ne sais pas comment cela se faisait. Sûrement je n'aime pas Monsieur de Valmont, bien au contraire. Et il y avait des moments où j'étais comme si je l'aimais. Vous jugez bien que ça ne m'empêchait pas de lui dire toujours que non. Mais je sentais bien que je ne faisais pas comme je disais. Et ça, c'était comme malgré moi. Et puis aussi, j'étais bien troublée. S'il est toujours aussi difficile que ça de se défendre, il faut y être bien accoutumé. Il est vrai que Monsieur de Valmont a des façons de dire qu'on ne sait pas comment faire pour lui répondre. Enfin, croiriez-vous que quand il s'en est allé, j'en étais comme fâchée, et que j'ai eu la faiblesse de consentir qu'il revînt ce soir. Ça me désole encore plus que tout le reste. Oh, malgré ça, je vous promets bien que je l'empêcherai d'y venir. Il n'a pas été sorti que j'ai bien senti que j'avais eu bien tort de lui promettre. Aussi, j'ai pleuré tout le reste du temps. C'est surtout Danceny qui me faisait de la peine. Toutes les fois que je songeais à lui, mes pleurs redoublaient que j'en étais suffoquée, et j'y songeais toujours. Et à présent encore, vous en voyez les faits. Voilà mon papier tout trempé. Non, je ne me consolerai jamais, ne fût-ce qu'à cause de lui. Enfin, je n'en pouvais plus, et pourtant je n'ai pas pu dormir une minute. Et ce matin, en me levant, quand je me suis regardée au miroir, je faisais peur tant j'étais changée. Maman s'en est aperçue dès qu'elle m'a vue, et elle m'a demandé ce que j'avais. Moi, je me suis mise à pleurer tout de suite, je croyais qu'elle allait me gronder, et peut-être ça m'aurait fait moins de peine. Mais au contraire, elle m'a parlé avec douceur. Je ne le méritais guère. Elle m'a dit de ne pas m'affliger comme ça. Elle ne savait pas le sujet de mon affliction, que je me rendrais malade. Il y a des moments où je voudrais être morte. Je n'ai pas pu y tenir. Je me suis jetée dans ses bras en sanglotant et en lui disant « Ah maman, votre fille est bien malheureuse !» Maman n'a pas pu s'empêcher de pleurer un peu, et tout cela n'a fait qu'augmenter mon chagrin. Heureusement, elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais si malheureuse, car je n'aurais su que lui dire. Je vous en supplie, madame. Écrivez-moi le plus tôt que vous pourrez, et dites-moi ce que je dois faire, car je n'ai pas le courage de songer à rien, et je ne sais que m'affliger. Vous voudrez bien m'adresser votre lettre par Monsieur de Valmont, mais je vous en prie, si vous lui écrivez en même temps, ne lui parlez pas que je vous ai rien dit. J'ai l'honneur d'être, madame, avec toujours bien de l'amitié, votre très humble et très obéissante servante. Je n'ose pas signer cette lettre. Du château de ce 1er octobre 1700. Lettre 98, Madame de Volanges à la marquise de Merteuil. Il y a bien peu de jours, ma charmante amie, que c'était vous qui me demandiez des consolations et des conseils. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et je vous fais pour moi la même demande que vous me faisiez pour vous. Je suis bien réellement affligée, et je crains de n'avoir pas pris les meilleurs moyens pour éviter les chagrins que j'éprouve. C'est ma fille qui cause mon inquiétude. Depuis mon départ, je l'avais bien vue toujours triste et chagrine, mais je m'y attendais, et j'avais armé mon cœur d'une sévérité que je jugeais nécessaire. J'espérais que l'absence, les distractions, détruiraient bientôt un amour que je regardais plutôt comme une erreur de l'enfance que comme une véritable passion. Cependant, loin d'avoir rien gagné depuis mon séjour ici, je m'aperçois que cet enfant se livre de plus en plus à une mélancolie dangereuse. Et je crains, tout de bon, que sa santé ne s'altère. Particulièrement depuis quelques jours, elle change à vue d'œil. Hier surtout, elle me frappa, et tout le monde ici en fut vraiment alarmé. Ce qui me prouve encore combien elle est affectée vivement, c'est que je la vois prête à surmonter la timidité qu'elle a toujours eue avec moi. Hier matin, sur la simple demande que je lui fis si elle était malade, elle se précipita dans mes bras en me disant qu'elle était bien malheureuse. Et elle pleura aux sanglots. Je ne puis vous rendre la peine qu'elle m'a faite. Les larmes me sont venues aux yeux tout de suite, et je n'ai eu que le temps de me détourner pour empêcher qu'elle ne me vît. Heureusement, j'ai eu la prudence de ne lui faire aucune question, et elle n'a pas osé m'en dire davantage. Mais il n'en est pas moins clair que c'est cette malheureuse passion qui la tourmente. Quel parti prendre pourtant si cela dure? Ferais-je le malheur de ma fille? Tournerais-je contre elle les qualités les plus précieuses de l'âme, la sensibilité et la constance? Est-ce pour cela que je suis sa mère? Et quand j'étoufferai ce sentiment si naturel qui nous fait vouloir le bonheur de nos enfants, quand je regarderai comme une faiblesse ce que je crois, au contraire, le premier, le plus sacré de nos devoirs, si je force son choix, n'aurais-je pas à répondre des suites funestes qu'il peut avoir? Quel usage à faire de l'autorité maternelle que de placer sa fille entre le crime et le malheur? Mon ami, je n'imiterai pas ce que j'ai blâmé si souvent. J'ai pu sans doute tenter de faire un choix pour ma fille. Je ne faisais en cela que l'aider de mon expérience. Ce n'était pas un droit que j'exerçais. Je remplissais un devoir. J'en trahirais un, au contraire, en disposant d'elle au mépris d'un penchant que je n'ai pas su empêcher de naître, et dont ni elle ni moi ne pouvons connaître ni l'étendue ni la durée. Non, je ne souffrirai point qu'elle épouse celui-ci pour aimer celui-là, et j'aime mieux compromettre mon autorité que sa vertu. Je crois donc que je vais prendre le parti le plus sage de retirer la parole que j'ai donnée à monsieur de Gercourt. Vous venez d'en avoir les raisons. Elles me paraissent devoir l'emporter sur mes promesses. Je dis plus. Dans l'état où sont les choses, remplir mon engagement, ce serait véritablement le violer. Car enfin, si je dois à ma fille de ne pas livrer son secret à monsieur de Gercourt, je dois au moins à celui-ci de ne pas abuser de l'ignorance où je le laisse, et de faire pour lui tout ce que je crois qu'il ferait lui-même s'il était instruit. Irais-je au contraire le trahir indignement quand il se livre à ma foi, et tandis qu'il m'honore en me choisissant pour sa seconde mère, le tromper dans le choix qu'il veut faire de la mère de ses enfants? Ces réflexions si vraies et auxquelles je ne peux me refuser m'alarment plus que je ne puis vous dire. Au malheur qu'elles me font redouter, je compare ma fille, heureuse avec l'époux que son cœur a choisi, ne connaissant ses devoirs que par la douceur qu'elle trouve à les remplir. Mon gendre également satisfait et se félicitant chaque jour de son choix. Chacun d'eux ne trouvant de bonheur que dans le bonheur de l'autre, et celui de tous deux se réunissant pour augmenter le mien. L'espoir d'un avenir si doux doit-il être sacrifié à de vaines considérations? Et quelles sont celles qui me retiennent? Uniquement des vues d'intérêt. De quel avantage sera-t-il donc pour ma fille d'être née riche si elle n'en doit pas moins être l'esclave de la fortune? Je conviens que monsieur de Gercourt est un parti meilleur, peut-être, que je ne devais l'espérer pour ma fille. J'avoue même que j'ai été extrêmement flattée du choix qu'il a fait d'elle. Mais enfin, Danceny est d'une aussi bonne maison que lui. Il ne lui cède en rien pour les qualités personnelles. Il a sur monsieur de Gercourt l'avantage d'aimer et d'être aimé. Il n'est pas riche, à la vérité. Mais ma fille ne l'est-elle pas assez pour eux deux? Ah, pourquoi lui ravir la satisfaction si douce d'enrichir ce qu'elle aime? Ces mariages qu'on calcule au lieu de les assortir, qu'on appelle de convenance, et où tout se convient en effet, hors les goûts et les caractères, ne sont-ils pas la source la plus féconde de ces éclats scandaleux qui deviennent tous les jours plus fréquents? J'aime mieux différer. Au moins j'aurai le temps d'étudier ma fille que je ne connais pas. Je me sens bien le courage de lui causer un chagrin passager si elle en doit recueillir un bonheur plus solide. Mais de risquer de la livrer à un désespoir éternel, cela n'est pas dans mon cœur. Voilà, ma chère amie, les idées qui me tourmentent et sur quoi je réclame vos conseils. Ces objets sévères contrastent beaucoup avec votre aimable gaieté et ne paraissent guère de votre âge, mais votre raison l'a tant devancée. Votre amitié d'ailleurs aidera votre prudence. Et je ne crains point que l'une ou l'autre se refuse à la sollicitude maternelle qui les implore. Adieu, ma charmante amie. Ne doutez jamais de la sincérité de mes sentiments. Du château de ce 2 octobre 1700. Lettre 99. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Encore de petits événements, ma belle amie, mais des scènes seulement, point d'action. Ainsi, armez-vous de patience, prenez-en même beaucoup, car tandis que ma présidente marche à 6 petits pas, votre pupille recule, et c'est bien pis encore. Eh bien, j'ai le bon esprit de m'amuser de ces misères-là. Véritablement, je m'accoutume fort bien à mon séjour ici, et je puis vous dire que dans le triste château de ma vieille tante, je n'ai pas éprouvé un moment d'ennui. Au fait, n'y ai-je pas jouissance, privation, espoir, incertitude? Qu'a-t-on de plus sur un plus grand théâtre? Des spectateurs? Eh, laissez faire, ils ne me manqueront pas. S'ils ne me voient pas à l'ouvrage, je leur montrerai ma besogne faite. Ils n'auront plus qu'à l'admirer et applaudir. Oui, ils applaudiront, car je puis enfin prédire avec certitude le moment de la chute de mon austère dévote. J'ai assisté ce soir à l'agonie de la vertu. La douce faiblesse va régner à sa place. Je n'en fixe pas l'époque plus tard qu'à notre première entrevue. Mais déjà, je vous entends crier à l'orgueil, annoncer sa victoire, se vanter à l'avance. Hé là là, calmez-vous. Pour vous prouver ma modestie, je vais commencer par l'histoire de ma défaite. En vérité, votre pupille est une petite personne bien ridicule. C'est bien un enfant qu'il faudrait traiter comme tel, et à qui on ferait grâce en ne la mettant qu'en pénitence. Croiriez-vous qu'après ce qui s'est passé avant-hier entre elle et moi, après la façon amicale dont nous nous sommes quittés hier matin, lorsque j'ai voulu y retourner le soir, comme elle en était convenue, j'ai trouvé sa porte fermée en dedans. Qu'en dites-vous? On éprouve quelquefois de ces enfantillages-là la veille, mais le lendemain. Cela n'est-il pas plaisant? Je n'en ai pourtant pas ri d'abord. Jamais je n'avais autant senti l'empire de mon caractère. Assurément, j'allais à ce rendez-vous sans plaisir et uniquement par procédé. Mon lit, dont j'avais grand besoin, me semblait pour le moment préférable à celui de tout autre, et je ne m'en étais éloigné qu'à regret. Cependant, je n'ai pas eu plutôt trouvé un obstacle que je brûlais de le franchir. J'étais humilié surtout qu'un enfant m'eût joué. Je me retirai donc avec beaucoup d'humeur, et dans le projet de ne plus me mêler de ce sot enfant, ni de ses affaires. Je lui avais écrit sur le champ un billet que je comptais lui remettre aujourd'hui, et où je l'évaluais à son juste prix. Mais, comme on dit, la nuit porte conseil. J'ai trouvé ce matin que n'ayant pas ici le choix des distractions, il fallait garder celle-là. J'ai donc supprimé le sévère billet. Depuis que j'y réfléchis, je ne reviens pas d'avoir eu l'idée de finir une aventure avant d'avoir en main de quoi en perdre l'héroïne. Où nous mène pourtant un premier mouvement. Heureux, ma belle amie, qui a su, comme vous, s'accoutumer à n'y jamais céder. Enfin, j'ai différé ma vengeance. J'ai fait ce sacrifice à vos vues sur Gercourt. À présent que je ne suis plus en colère, je ne vois plus que du ridicule dans la conduite de votre pupille. En effet, je voudrais bien savoir ce qu'elle espère gagner par là. Pour moi, je m'y perds. Si ce n'est que pour se défendre, il faut convenir qu'elle s'y prend un peu tard. Il faudra bien qu'un jour elle me dise le mot de cette énigme. J'ai grande envie de le savoir. C'est peut-être seulement qu'elle se trouvait fatiguée? Franchement, cela se pourrait. Car sans doute, elle ignore encore que les flèches de l'amour, comme la lance d'Achille, portent avec elles le remède aux blessures qu'elles font. Mais non, à sa petite grimace de toute la journée, je parierais qu'il entre là-dedans du repentir. Là, quelque chose comme de la vertu. De la vertu, c'est bien à elle qu'il convient d'en avoir. Ah, qu'elle la laisse à la femme véritablement née pour elle, la seule qui sache l'embellir, qui la ferait aimer. Pardon, ma belle amie. Mais c'est ce soir même que s'est passée entre Madame de Tourvel et moi la scène dont j'ai à vous rendre compte. et j'en conserve encore quelque émotion. J'ai besoin de me faire violence pour me distraire de l'impression qu'elle m'a faite. C'est même pour m'y aider que je me suis mise à vous écrire. Il faut pardonner quelque chose à ce premier moment. Il y a déjà quelques jours que nous sommes d'accord, Madame de Tourvel et moi, sur nos sentiments. Nous ne nous disputons plus que sur les mots. C'était toujours à la vérité, son amitié, qui répondait à mon amour. Mais ce langage de convention ne changeait pas le fond des choses. Et quand nous serions restés ainsi, j'en aurais peut-être été moins vite, mais non pas moins sûrement. Déjà même, il n'était plus question de m'éloigner, comme elle le voulait d'abord. Et pour les entretiens que nous avons journellement, si je mets mes soins à lui en offrir l'occasion, elle met les siens à la saisir. Comme c'est ordinairement à la promenade que se passent nos petits rendez-vous, le temps affreux qu'il a fait tout aujourd'hui ne me laissait rien espérer. J'en étais même vraiment contrariée. Je ne prévoyais pas combien je devais gagner à ce contretemps. Ne pouvant se promener, on s'est mis à jouer en sortant de table. Et comme je joue peu et que je ne suis plus nécessaire, j'ai pris ce temps pour monter chez moi, sans d'autre projet que d'y attendre à peu près la fin de la partie. Je retournais joindre le cercle quand j'ai trouvé la charmante femme qui entrait dans son appartement et qui, soit imprudence ou faiblesse, m'a dit de sa douce voix « Où allez-vous donc? Il n'y a personne au salon. » Il ne m'en a pas fallu davantage, comme vous pouvez croire, pour essayer d'entrer chez elle. J'ai trouvé moins de résistance que je ne m'y attendais. Il est vrai que j'avais eu la précaution de commencer la conversation à la porte et de la commencer indifférente. Mais à peine avons-nous été établis que j'ai ramené la véritable et que j'ai parlé de mon amour à mon ami. Sa première réponse, quoique simple, m'a paru assez expressive. « Oh, tenez !» m'a-t-elle dit. « Ne parlons pas de cela ici. » Et elle tremblait. La pauvre femme, elle se voit mourir. Pourtant, elle avait tort de craindre. Depuis quelque temps, assurée du succès un jour ou l'autre, et la voyant user tant de force dans d'inutiles combats, j'avais résolu de ménager les miennes, et d'attendre sans effort qu'elle se rendît de lassitude. Vous sentez bien qu'ici il faut un triomphe complet, et que je ne veux rien devoir à l'occasion. C'était même d'après ce plan formé, et pour pouvoir être pressant sans m'engager trop, que je suis revenue à ce mot d'amour, si obstinément refusé. Sûr qu'on me croyait assez d'ardeur, j'ai essayé un ton plus tendre. Ce refus ne me fâchait plus, il m'affligeait. Ma sensible amie ne me devait-elle pas quelque consolation? Tout en me consolant, une main était restée dans la mienne. Le joli corps était appuyé sur mon bras et nous étions extrêmement rapprochés. Vous avez sûrement remarqué combien dans cette situation, à mesure que la défense mollit, les demandes et les refus se passent de plus près. Comment la tête se détourne et les regards se baissent, tandis que les discours, toujours prononcés d'une voix faible, deviennent rares et entrecoupés. Ces symptômes précieux annoncent d'une manière non équivoque le consentement de l'âme. Mais rarement a-t-il encore passé jusqu'au sens. Je crois même qu'il est toujours dangereux de tenter alors quelque entreprise trop marquée. Parce que cet état d'abandon n'étant jamais sans un plaisir très doux, on ne saurait forcer d'en sortir sans causer une humeur qui tourne infailliblement au profit de la défense. Mais dans le cas présent, la prudence m'était d'autant plus nécessaire que j'avais surtout à redouter l'effroi que cet oubli d'elle-même ne manquerait pas de causer à ma tendre rêveuse. Aussi, cet aveu que je demandais, je n'exigeais pas même qu'il fût prononcé. Un regard pouvait suffire. Un seul regard, et j'étais heureux. Ma belle amie, les beaux yeux se sont en effet levés sur moi. La bouche céleste a même prononcé. Eh bien, oui, je... Mais tout à coup, le regard s'est éteint. La voix a manqué, et cette femme adorable est tombée dans mes bras. À peine avais-je eu le temps de l'y recevoir, que se dégageant avec une force convulsive, la vue égarée et les mains élevées vers le ciel... « Dieu, oh mon Dieu, sauvez-moi » s'est-elle criée. Et sur le champ, plus prompte que l'éclair, elle était à genoux à 10 pas de moi. Je l'entendais prête à suffoquer. Je me suis avancée pour la secourir. Mais elle, prenant mes mains qu'elle baignait de pleurs, quelquefois même embrassant mes genoux. « Oui, ce sera vous, disait-elle. Ce sera vous qui me sauverez. Vous ne voulez pas ma mort. Laissez-moi, sauvez-moi, laissez-moi. Au nom de Dieu, laissez-moi. » Et ses discours peu suivis s'échappaient à peine à travers des sanglots redoublés. Cependant, elle me tenait avec une force qui ne m'aurait pas permis de m'éloigner. Alors, rassemblant les miennes, je les soulevais dans mes bras. Au même instant, les pleurs ont cessé. Elle ne parlait plus. Tous ses membres se sont roidis et de violentes convulsions ont succédé à cet orage. J'étais, je l'avoue, vivement émue, et je crois que j'aurais consenti à sa demande quand les circonstances ne m'y auraient pas forcée. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'après lui avoir donné quelques secours, je l'ai laissée comme elle m'en priait, et que je m'en félicite. Déjà, j'en ai presque reçu le prix. Je m'attendais qu'ainsi que le jour de ma première déclaration, elle ne se montrerait pas de la soirée. Mais vers les 8 heures, elle est descendue au salon et a seulement annoncé au cercle qu'elle s'était trouvée fort incommodée. Sa figure était abattue, sa voix faible et son maintien composé. Mais son regard était doux et souvent il s'est fixé sur moi. Son refus de jouer m'ayant même obligée de prendre sa place, elle a pris la sienne à mes côtés. Pendant le souper, elle est restée seule dans le salon. Quand on y est revenu, j'ai cru m'apercevoir qu'elle avait pleuré. Pour m'en éclaircir, je lui ai dit qu'il me semblait qu'elle s'était encore ressentie de son incommodité, à quoi elle m'a obligeamment répondu « Ce mal-là ne s'en va pas si vite qu'il vient. » Enfin, quand on s'est retiré, je lui ai donné la main, et à la porte de son appartement, elle a serré la mienne avec force. Il est vrai que ce mouvement m'a paru avoir quelque chose d'involontaire. Mais tant mieux. C'est une preuve de plus de mon empire. Je parierai qu'à présent elle est enchantée d'en être là. Tous les frais sont faits. Il ne reste plus qu'à jouir. Peut-être, pendant que je vous écris, s'occupe-t-elle déjà de cette douce idée. Et quand même elle s'occuperait, au contraire, d'un nouveau projet de défense, ne savons-nous pas bien ce que deviennent tous ces projets-là? Je vous le demande, cela peut-il aller plus loin que notre prochaine entrevue? Je m'attends bien, par exemple, qu'il y aura quelque façon pour l'accorder. Mais bon, le premier pas franchi, ces prudes austères savent-elles s'arrêter. Leur amour est une véritable explosion. La résistance y donne plus de force. Ma farouche dévote courrait après moi, si je cessais de courir après elle. Enfin, ma belle amie, incessamment j'arriverai chez vous pour vous sommer de votre parole. Vous n'avez pas oublié sans doute ce que vous m'avez promis après le succès, cette infidélité à votre chevalier. Êtes-vous prête? Pour moi, je le désire comme si nous nous étions jamais connus. Au reste, vous connaîtrez peut-être une raison pour le désirer davantage. Je suis juste et ne suis point galant. Aussi, ce sera là la première infidélité que je ferai à ma grave conquête. Et je vous promets de profiter du premier prétexte pour m'absenter 24 heures d'auprès d'elle. Ce sera sa punition de m'avoir tenu si longtemps éloignée de vous. Savez-vous que voilà plus de 2 mois que cette aventure m'occupe? Oui, 2 mois et 3 jours. Il est vrai que je compte demain, puisqu'elle ne sera véritablement consommée qu'alors. Cela me rappelle que mademoiselle de B a résisté les 3 mois complets. Je suis bien aise de voir que la franche coquetterie a plus de défense que l'austère vertu. Adieu, ma belle amie. Il faut vous quitter car il est fort tard. Cette lettre m'a menée plus loin que je ne comptais. Mais comme j'envoie demain matin à Paris, j'ai voulu en profiter pour vous faire partager un jour plus tôt la joie de votre amie. Du château de... Ce 2 octobre 1700, au soir. Lettre 100, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Mon ami, je suis joué, trahi, perdu. Je suis au désespoir. Madame de Tourvel est partie. Elle est partie, et je ne l'ai pas su, et je n'étais pas là pour m'opposer à son départ, pour lui reprocher son indigne trahison. Ah, ne croyez pas que je l'eusse laissée partir. Elle serait restée. Oui, Elle serait restée, eussé-je dû employer la violence. Mais quoi ? Dans ma crédule sécurité, je dormais tranquillement. Je dormais et la foudre est tombée sur moi. Non, je ne conçois rien à ce départ. Il faut renoncer à connaître les femmes. Quand je me rappelle la journée d'hier, que dis-je, la soirée même, ce regard si doux, cette voix si tendre et cette main serrée. Et pendant ce temps, elle projetait de me fuir. Ô femme, femme, plaignez-vous donc si l'on vous trompe. Mais oui, toute perfidie qu'on emploie est un vol qu'on vous fait. Quel plaisir j'aurai à me venger. Je la retrouverai, cette femme perfide. Je reprendrai mon empire sur elle. Si l'amour m'a suffi pour en trouver les moyens, que ne sera-t-il pas aidé de la vengeance? Je la verrai encore à mes genoux, tremblante et baignée de pleurs, me criant merci de sa trompeuse voix. Et moi, je serai sans pitié. Que fait-elle à présent? Que pense-t-elle? Peut-être elle s'applaudit de m'avoir trompée, et fidèle au goût de son sexe, ce plaisir lui paraît le plus doux. Ce que n'a pu la vertu tant vanter, l'esprit de ruse l'a produit sans effort. Insensé, je redoutais sa sagesse. C'était sa mauvaise foi que je devais craindre. Et être obligé de dévorer mon ressentiment, n'oser montrer qu'une tendre douleur quand j'ai le cœur rempli de rage. Me voir réduit à supplier encore une femme rebelle qui s'est soustraite à mon empire. Devais-je donc être humilié à ce point? Et par qui? Par une femme timide qui jamais ne s'est exercée à combattre. À quoi me sert de m'être établi dans son cœur, de l'avoir embrasé de tous les feux de l'amour, d'avoir porté jusqu'au délire le trouble de ses sens? Si tranquille dans sa retraite, elle put aujourd'hui s'enorgueillir de sa fuite plus que moi de mes victoires. Et je le souffrirai. Mon ami, vous ne le croyez pas. Vous n'avez pas de moi cette humiliante idée. Mais quelle fatalité m'attache à cette femme? Cent autres ne désirent-elles pas mes soins? Ne s'empresseront-elles pas d'y répondre? Quand même aucune ne vaudrait celle-ci, l'attrait de la variété, le charme des nouvelles conquêtes, l'éclat de leur nombre, n'offre-t-il pas des plaisirs assez doux? Pourquoi courir après celui qui nous fuit et négliger ce qui se présente? Ah, pourquoi? Je l'ignore, mais je l'éprouve fortement. Il n'est plus pour moi de bonheur, de repos, que par la possession de cette femme que je hais et que j'aime avec une égale fureur. Je ne supporterai mon sort que du moment où je disposerai du sien. Alors, tranquille et satisfait, je la verrai à son tour livrée aux orages que j'éprouve en ce moment. J'en exciterai mille autres encore. L'espoir et la crainte, la méfiance et la sécurité, tous les maux inventés par la haine, tous les biens accordés par l'amour. Je veux qu'il remplisse son cœur, qu'il s'y succède à ma volonté. Ce temps viendra. Mais que de travaux encore! Que j'en étais prêt hier, et qu'aujourd'hui je m'en vois éloignée. Comment m'en rapprocher? Je n'ose tenter aucune démarche. Je sens que pour prendre un parti, il faudrait être plus calme, et mon sang bout dans mes veines. Ce qui redouble mon tourment, c'est le sang-froid avec lequel chacun ici répond à mes questions sur cet événement, sur sa cause, sur tout ce qu'il offre d'extraordinaire. Personne ne sait rien, personne ne désire rien savoir. À peine en aurait-on parlé, si j'avais consenti qu'on parlât d'autre chose. Madame de Rosemonde, chez qui j'ai couru ce matin quand j'ai appris cette nouvelle, m'a répondu avec le froid de son âge que c'était la suite naturelle de l'indisposition que Madame de Tourvel avait eue hier, qu'elle avait craint une maladie, et qu'elle avait préféré d'être chez elle. Elle trouve cela tout simple. Elle en aurait fait autant, m'a-t-elle dit. Comme s'il pouvait y avoir quelque chose de commun entre elles deux. Entre elle, qui n'a plus qu'à mourir, et l'autre, qui fait le charme et le tourment de ma vie. Madame de Volanges, que d'abord j'avais soupçonné d'être complice, ne paraît affectée que de n'avoir pas été consultée sur cette démarche. Je suis bien aise, je l'avoue, qu'elle n'ait pas eu le plaisir de me nuire. Cela me prouve encore qu'elle n'a pas, autant que je le craignais, la confiance de cette femme. C'est toujours une ennemie de moins. Comme elle se féliciterait, si elle savait que c'est moi qu'on a fui. Comme elle se serait gonflée d'orgueil, si c'eût été par ses conseils. Comme son importance en aurait redoublé. Mon Dieu, que je la hais. Oh, je renouerai avec sa fille. Je veux la travailler à ma fantaisie. Aussi bien, je crois que je resterai ici quelque temps. Au moins, le peu de réflexion que j'ai pu faire me porte à ce parti. Ne croyez-vous pas, en effet, qu'après une démarche aussi marquée, mon ingrate doit redouter ma présence? Si donc l'idée lui est venue que je pourrais la suivre, elle n'aura pas manqué de me fermer sa porte. Et je ne veux pas plus l'accoutumer à ce moyen qu'en souffrir l'humiliation. J'aime mieux lui annoncer au contraire que je reste ici. Je lui ferai même des instances pour qu'elle y revienne. Et quand elle sera bien persuadée de mon absence, j'arriverai chez elle. Nous verrons comment elle supportera cette entrevue. Mais il faut la différer pour en augmenter l'effet. Et je ne sais encore si j'en aurai la patience. J'ai eu, 20 fois dans la journée, la bouche ouverte pour demander mes chevaux. Cependant, je prendrai sur moi. Je m'engage à recevoir votre réponse ici. Je vous demande seulement, ma belle amie, de ne pas me la faire attendre. Ce qui me contrarierait le plus serait de ne pas savoir ce qui se passe. Mais mon chasseur, qui est à Paris, a des droits à quelques accès auprès de la femme de chambre. Il pourra me servir. Je lui envoie une instruction et de l'argent. Je vous prie de trouver bon que je joigne l'un et l'autre à cette lettre, et aussi d'avoir soin de les lui envoyer par un de vos gens, avec ordre de les lui remettre à lui-même. Je prends cette précaution parce que le drôle a l'habitude de n'avoir jamais reçu les lettres que je lui écris quand elles lui prescrivent quelque chose qui le gêne. Et que pour le moment, il ne me paraît pas aussi épris de sa conquête que je voudrais qu'il le fût. Adieu, ma belle amie. S'il vous vient quelque idée heureuse, quelque moyen de hâter ma marche, faites-m'en part. J'ai éprouvé plus d'une fois combien votre amitié pouvait être utile. Je l'éprouve encore en ce moment, car je me sens plus calme depuis que je vous écris. Au moins, je parle à quelqu'un qui m'entend, et non aux automates près de qui je végète depuis ce matin. En vérité, plus je vais, et plus je suis tentée de croire qu'il n'y a que vous et moi dans le monde qui valions quelque chose. Du château de ce 3 octobre 1700. Lettre 101. Le vicomte de Valmont à Azolan, son chasseur, joint à la précédente. Il faut que vous soyez bien imbécile, vous qui êtes parti d'ici ce matin, de n'avoir pas su que madame de Tourvel en partait aussi. Ou si vous l'avez su, de n'être pas venu m'en avertir. À quoi sert-il donc que vous dépensiez mon argent à vous enivrer avec les valets, que le temps que vous devriez employer à me servir, vous le passiez à faire l'agréable auprès des femmes de chambre, si je n'en suis pas mieux informée de ce qui se passe? Voilà pourtant de vos négligences. Mais je vous préviens que s'il en arrive une seule dans cette affaire-ci, ce sera la dernière que vous aurez à mon service. Il faut que vous m'instruisiez de tout ce qui se passe chez madame de Tourvel, de sa santé, si elle dort, si elle est triste ou gaie, si elle sort souvent et chez qui elle va, si elle reçoit du monde chez elle et qui y vient, à quoi elle passe son temps, si elle a de l'humeur avec ses femmes, particulièrement avec celles qu'elle avait amenées ici, ce qu'elle fait quand elle est seule, si quand elle lit de suite, ou si elle interrompt sa lecture pour rêver, de même quand elle écrit. Songez aussi à vous rendre l'ami de celui qui porte ses lettres à la poste. Offrez-vous souvent à lui pour faire cette commission à sa place. Et quand il acceptera, ne faites partir que celles qui vous paraîtront indifférentes, et envoyez-moi les autres, surtout celles à madame de Volanges, si vous en rencontrez. Arrangez-vous pour être encore quelque temps l'amant heureux de votre Julie. Si elle en a un autre comme vous l'avez cru, faites-la consentir à se partager. Et n'allez pas vous piquer d'une ridicule délicatesse. Vous serez dans le cas de bien d'autres qui valent mieux que vous. Si pourtant votre second se rendait trop importun, si vous vous aperceviez par exemple qu'il occupa trop Julie pendant la journée et qu'elle en fut moins souvent auprès de sa maîtresse, écartez-le par quelque moyen ou cherchez-lui querelle. N'en craignez pas les suites, je vous soutiendrai. Surtout ne quittez pas cette maison. C'est par l'assiduité qu'on voit tout, et qu'on voit bien. Si même le hasard faisait renvoyer quelqu'un des gens, présentez-vous pour le remplacer, comme n'étant plus à moi. Dites dans ce cas que vous m'avez quitté pour chercher une maison plus tranquille et plus réglée. Tâchez enfin de vous faire accepter. Je ne vous en garderai pas moins à mon service pendant ce temps. Ce sera comme chez la duchesse de... Et par la suite, Madame de Tourvel vous en récompensera de même. Si vous aviez assez d'adresse et de zèle, cette instruction devrait suffire. Mais pour suppléer à l'un et à l'autre, je vous envoie de l'argent. Le billet 6 juin vous autorise, comme vous verrez, à toucher 25 louis chez mon homme d'affaires, car je ne doute pas que vous ne soyez sans le sol. Vous emploierez de cette somme ce qui sera nécessaire pour décider Julie à établir une correspondance avec moi. Le reste servira à faire boire les gens. Ayez soin, autant que cela se pourra, que ce soit chez le Suisse de la maison, afin qu'il aime à vous y voir venir. Mais n'oubliez pas que ce ne sont pas vos plaisirs que je veux payer, mais vos services. Accoutumez Julie à observer tout et à tout rapporter, même ce qui lui paraît très minutieux. Il vaut mieux qu'elle écrive 10 phrases inutiles que d'en omettre une d'intéressante. Et souvent ce qui paraît indifférent ne l'est pas. Comme il faut que je puisse être instruit sur le champ, s'il arrivait quelque chose qui vous parût mériter attention, aussitôt cette lettre reçue, vous enverrez Philippe sur le cheval de commission s'établir à... Il y restera jusqu'à nouvel ordre. Ce sera un relais en cas de besoin. Pour la correspondance courante, la poste suffira. Prenez garde de perdre cette lettre. Relisez-la tous les jours, tant pour vous assurer de ne rien oublier que pour être sûr de l'avoir encore. Faites enfin tout ce qu'il faut faire quand on est honoré de ma confiance. Vous savez que si je suis content de vous, vous le serez de moi. Du château de ce 3 octobre 1700. Lettre 102, la présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Vous serez bien étonnée, madame, en apprenant que je pars de chez vous aussi précipitamment. Cette démarche va vous paraître bien extraordinaire, mais que votre surprise va redoubler encore quand vous en saurez les raisons. Peut-être trouverez-vous qu'en vous les confiant, je ne respecte pas assez la tranquillité nécessaire à votre âge, que je m'écarte même des sentiments de vénération qui vous sont dus à tant de titres. Ah, madame, pardon, mais mon cœur est oppressé. Il a besoin d'épancher sa douleur dans le sein d'une amie, également douce et prudente. Quel autre que vous pouvait-il choisir? Regardez-moi comme votre enfant. Ayez pour moi les bontés maternelles, je les implore. J'ai peut-être quelques droits par mes sentiments pour vous. Où est le temps où, tout entière à ces sentiments louables, je ne connaissais point ceux qui, portant dans l'âme le trouble mortel que j'éprouve, ôtent la force de les combattre en même temps qu'ils en imposent le devoir? Ah, ce fatal voyage m'a perdue. Que vous dirai-je enfin? J'aime. Oui, j'aime éperdument. Hélas, ce mot que j'écris pour la première fois, ce mot si souvent demandé sans être obtenu, je paierai de ma vie la douceur de pouvoir, une fois seulement, le faire entendre à celui qui l'inspire. Et pourtant, il faut le refuser sans cesse. Il va douter encore de mes sentiments. Il croira avoir à s'en plaindre. Oh, je suis bien malheureuse. Que ne lui est-il aussi facile de lire dans mon cœur que d'y régner? Oui, je souffrirais moins s'il savait tout ce que je souffre. Mais vous-même, à qui je le dis, vous n'en aurez encore qu'une faible idée. Dans peu de moments, je vais le fuir et l'affliger. Tandis qu'il se croira encore près de moi, je serai déjà loin de lui. À l'heure où j'avais coutume de le voir chaque jour, je serai dans des lieux où il n'est jamais venu, où je ne dois pas permettre qu'il vienne. Déjà tous mes préparatifs sont faits. Tout est là, sous mes yeux. Je ne puis les reposer sur rien qui ne m'annonce ce cruel départ. Tout est prêt, excepté moi. Et plus mon cœur s'y refuse, plus il me prouve la nécessité de m'y soumettre. Je m'y soumettrai, sans doute. Il vaut mieux mourir que de vivre coupable. Déjà, je le sens, je ne le suis que trop. Je n'ai sauvé que ma sagesse. La vertu s'est évanouie. Faut-il vous l'avouer? Ce qui me reste encore, je le dois à sa générosité. Enivré du plaisir de le voir, de l'entendre, de la douceur de le sentir auprès de moi, du bonheur plus grand de pouvoir faire le sien, J'étais sans puissance et sans force. À peine m'en restait-il pour combattre. Je n'en avais plus pour résister. Je frémissais de mon danger sans pouvoir le fuir. Eh bien, il a vu ma peine et il a eu pitié de moi. Comment ne le chérirais-je pas? Je lui dois bien plus que la vie. Ah, si en restant auprès de lui, je n'avais à trembler que pour elle. Ne croyez pas que jamais je consentisse à m'éloigner. Que m'est-elle sans lui? Ne serais-je pas trop heureuse de la perdre? Condamnée à faire éternellement son malheur et le mien, à n'oser ni me plaindre ni le consoler, à me défendre chaque jour contre lui, contre moi-même, à mettre mes soins à causer sa peine, quand je voudrais les consacrer tous à son bonheur. Vivre ainsi, n'est-ce pas mourir mille fois? Voilà pourtant quel va être mon sort. Je le supporterai cependant, j'en aurai le courage. Ô vous que je choisis pour mère, recevez-en le serment. Recevez aussi celui que je fais de ne vous dérober aucune de mes actions. Recevez-le, je vous en conjure. Je vous le demande comme un secours dont j'ai besoin. Ainsi, engagée à vous dire tout, je m'accoutumerai à me croire toujours en votre présence. Votre vertu remplacera la mienne. Jamais, sans doute, je ne consentirai à rougir à vos yeux. Et retenue par ce frein puissant, tandis que je chérirai en vous l'indulgente amie, confidente de ma faiblesse, j'y honorerai encore l'ange tutélaire qui me sauvera de la honte. C'est bien en éprouver assez que d'avoir à faire cette demande. Fatal effet d'une présomptueuse confiance. Pourquoi n'ai-je pas redouté plutôt ce penchant que j'ai senti naître? Pourquoi me suis-je flatté de pouvoir à mon gré le maîtriser ou le vaincre? Insensé, je connaissais bien peu l'amour. Ah, si je l'avais combattu avec plus de soin, peut-être eût-il pris moins d'empire. Peut-être alors ce départ n'eût pas été nécessaire. Ou même, en me soumettant à ce parti douloureux, j'aurais pu ne pas rompre entièrement une liaison qui le suffit de rendre moins fréquente. Mais tout perdre à la fois, et pour jamais. Oh, mon ami, mais quoi, même en vous écrivant, je m'égare encore dans des vœux criminels. Ah, partons, partons. Et que du moins ces torts involontaires soient expiés par mes sacrifices. Adieu, ma respectable amie. Aimez-moi comme votre fille. Adoptez-moi pour telle. Et soyez sûre que malgré ma faiblesse, j'aimerais mieux mourir que de me rendre indigne de votre choix. Ce 3 octobre 1700, à 1h du matin. Lettre 103, Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. J'ai été, ma chère belle, plus affligée de votre départ que surprise de sa cause. Une longue expérience et l'intérêt que vous inspirez avaient suffi pour m'éclairer sur l'état de votre cœur. Et s'il faut tout dire, vous ne m'avez rien ou presque rien appris par votre lettre. Si je n'avais été instruite que par elle, j'ignorerais encore quel est celui que vous aimez. Car en me parlant de lui tout le temps, vous n'avez pas écrit son nom une seule fois. Je n'en avais pas besoin, je sais bien qui c'est. Mais je le remarque parce que je me suis rappelé que c'est toujours là le style de l'amour. Je vois qu'il en est encore comme au temps passé. Je ne croyais guère être jamais dans le cas de revenir sur des souvenirs si éloignés de moi et si étrangers à mon âge. Pourtant, depuis hier, je m'en suis vraiment beaucoup occupée par le désir que j'avais d'y trouver quelque chose qui pût vous être utile. Mais que puis-je faire ? Que vous admirez et vous plaindre. Je loue le parti sage que vous avez pris, mais il m'effraie, parce que j'en conclus que vous l'avez jugé nécessaire. Et quand on en est là, il est bien difficile de se tenir toujours éloigné de celui dont notre cœur nous rapproche sans cesse. Cependant, ne vous découragez pas. Rien ne doit être impossible à votre belle âme. Et quand vous devriez un jour avoir le malheur de succomber, ce qu'à Dieu ne plaise, croyez-moi, ma chère belle, réservez-vous au moins la consolation d'avoir combattu de toute votre puissance. Et puis ce que ne peut la sagesse humaine, la grâce divine l'opère quand il lui plaît. Peut-être êtes-vous à la veille de ses secours, et votre vertu, éprouvée dans ces combats terribles, en sortira plus pure et plus brillante. La force que vous n'avez pas aujourd'hui, espérez que vous la recevrez demain. N'y comptez pas pour vous en reposer sur elle, mais pour vous encourager à user de toutes les vôtres. en laissant à la Providence le soin de vous secourir dans un danger contre lequel je ne peux rien. Je me réserve de vous soutenir et vous consoler autant qu'il sera en moi. Je ne soulagerai pas vos peines, mais je les partagerai. C'est à ce titre que je recevrai volontiers vos confidences. Je sens que votre cœur doit avoir besoin de s'épancher. Je vous ouvre le mien. L'âge ne l'a pas encore refroidi au point d'être insensible à l'amitié. Vous le trouverez toujours prêt à vous recevoir. Ce sera un faible soulagement à vos douleurs, mais au moins vous ne pleurerez pas seul. Et quand ce malheureux amour, prenant trop d'empire sur vous, vous forcera d'en parler, il vaut mieux que ce soit avec moi qu'avec lui. Voilà que je parle comme vous, et je crois qu'à nous deux nous ne parviendrons pas à le nommer. Au reste, nous nous entendons. Je ne sais si je fais bien de vous dire qu'il m'a paru vivement affecté de votre départ. Il serait peut-être plus sage de ne vous en pas parler, mais je n'aime pas cette sagesse qui afflige ses amis. Je suis pourtant forcée de n'en pas parler plus longtemps. Ma vue débile et ma main tremblante ne me permettent pas de longues lettres quand il faut les écrire moi-même. Adieu donc, ma chère belle. Adieu, mon aimable enfant. Oui, je vous adopte volontiers pour ma fille. Et vous avez bien tout ce qu'il faut pour faire l'orgueil et le plaisir d'une mère. Du château de ce 3 octobre 1700. Lettre 104, la marquise de Merteuil à Madame de Volanges. En vérité, ma chère et bonne amie, j'ai eu peine à me défendre d'un mouvement d'orgueil en lisant votre lettre. Quoi ? Vous m'honorez de votre entière confiance ? Vous allez même jusqu'à me demander des conseils ? Ah, je suis bien heureuse si je mérite cette opinion favorable de votre part, si je ne la dois pas seulement à la prévention de l'amitié. Au reste, quel qu'en soit le motif, elle n'en est pas moins précieuse à mon cœur. Et l'avoir obtenue n'est à mes yeux qu'une raison de plus pour travailler davantage à la mériter. Je vais donc, mais sans prétendre vous donner un avis, vous dire librement ma façon de penser. Je m'en méfie parce qu'elle diffère de la vôtre. Mais quand je vous aurai exposé mes raisons, vous les jugerez. Et si vous les condamnez, je souscris d'avance à votre jugement. J'aurai au moins cette sagesse de ne pas me croire plus sage que vous. Si pourtant, et pour cette seule fois, mon avis se trouvait préférable, il faudrait en chercher la cause dans les illusions de l'amour maternel. Puisque ce sentiment est louable, il doit se trouver en vous. Qu'il se reconnaît bien, en effet, dans le parti que vous êtes tenté de prendre. C'est ainsi que s'il vous arrive d'errer quelquefois, ce n'est jamais que dans le choix de vos vertus. La prudence est, à ce qu'il me semble, celle qu'il faut préférer quand on dispose du sort des autres, et surtout quand il s'agit de le fixer par un lien indissoluble et sacré, tel que celui du mariage. C'est alors qu'une mère, également sage et tendre, doit, comme vous le dites si bien, aider sa fille de son expérience. Or, je vous le demande, qu'a-t-elle à faire pour y parvenir, sinon de distinguer, pour elle, entre ce qui plaît et ce qui convient ? Ne serait-ce donc pas avilir l'autorité maternelle, ne serait-ce pas l'anéantir, que de la subordonner à un goût frivole dont la puissance illusoire ne se fait sentir qu'à ceux qui la redoutent, et disparaît sitôt qu'on la méprise. Pour moi, je l'avoue, je n'ai jamais cru à ces passions entraînantes et irrésistibles dont il semble qu'on soit convenu de faire l'excuse générale de nos dérèglements. Je ne conçois point comment un goût, qu'un moment voit naître et qu'un autre voit mourir, peut avoir plus de force que les principes inaltérables de pudeur, d'honnêteté et de modestie. Et je n'entends pas plus qu'une femme qui les trahit puisse être justifiée par sa passion prétendue, qu'un voleur ne le serait par la passion de l'argent, ou un assassin par celle de la vengeance. Et qui peut dire n'avoir jamais eu à combattre ? Mais j'ai toujours cherché à me persuader que pour résister, il suffisait de le vouloir. Et jusqu'alors au moins mon expérience a confirmé mon opinion. Que serait la vertu sans les devoirs qu'elle impose ? Son culte est dans nos sacrifices, sa récompense dans nos cœurs. Ces vérités ne peuvent être niées que par ceux qui ont intérêt de les méconnaître, et qui, déjà dépravés, espèrent faire un moment d'illusion en essayant de justifier leur mauvaise conduite par de mauvaises raisons. Mais pourrait-on le craindre d'un enfant simple et timide ? d'un enfant né de vous, et dont l'éducation modeste et pure n'a pu que fortifier l'heure naturelle. C'est pourtant à cette crainte, que j'ose dire humiliante pour votre fille, que vous voulez sacrifier le mariage avantageux que votre prudence avait ménagé pour elle. J'aime beaucoup Danceny, et depuis longtemps, comme vous savez, je vois peu Monsieur de Gercourt. Mais mon amitié pour l'un, mon indifférence pour l'autre, ne m'empêche point de sentir l'énorme différence qui se trouve entre ces deux parties. Leur naissance est égale, j'en conviens, mais l'un est sans fortune, et celle de l'autre est telle que même sans naissance, elle aurait suffi pour le mener à tout. J'avoue bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avouer aussi qu'il le facilite beaucoup. Mademoiselle de Volanges est, comme vous dites, assez riche pour deux. Cependant, 60 000 livres de rente dont elle va jouir ne sont déjà pas tant quand on porte le nom de Danceny, quand il faut monter et soutenir une maison qui y réponde. Nous ne sommes plus au temps de Madame de Sévigné. Le luxe absorbe tout. On le blâme, mais il faut l'imiter, et le superflu finit par priver du nécessaire. Quant aux qualités personnelles que vous comptez pour beaucoup, et avec beaucoup de raison, assurément Monsieur de Gercourt est sans reproche de ce côté, et à lui ses preuves sont faites. J'aime à croire, et je crois qu'en effet Danceny ne lui cède en rien. Mais en sommes-nous aussi sûrs? Il est vrai qu'il a paru jusqu'ici exempt des défauts de son âge, et que malgré le ton du jour, il montre un goût pour la bonne compagnie qui fait augurer favorablement de lui. Mais qui sait si cette sagesse apparente, il ne la doit pas à la médiocrité de sa fortune. Pour peu qu'on craigne d'être fripon ou crapuleux, il faut de l'argent pour être joueur et libertin, et l'on peut encore aimer les défauts dont on redoute les excès. Enfin, il ne serait pas le millième qui aurait vu la bonne compagnie uniquement faute de pouvoir mieux faire. Je ne dis pas, à Dieu ne plaise, que je crois tout cela de lui. Mais ce serait toujours un risque à courir. Et quel reproche n'auriez-vous pas à vous faire si l'événement n'était pas heureux? Que répondriez-vous à votre fille qui vous dirait « Ma mère, j'étais jeune et sans expérience, j'étais même séduite par une erreur pardonnable à mon âge. Mais le ciel, qui avait prévu ma faiblesse, m'avait accordé une mère sage pour y remédier et m'en garantir. » Pourquoi donc, oubliant votre prudence, avez-vous consenti à mon malheur? Était-ce à moi de me choisir un époux quand je ne connaissais rien de l'état de mariage? Quand je l'aurais voulu, n'était-ce pas à vous de vous y opposer? Mais je n'ai jamais eu cette folle volonté. Décidée à vous obéir, j'ai attendu votre choix avec une respectueuse résignation. Jamais je ne me suis écartée de la soumission que je vous devais. Et cependant, je porte aujourd'hui la peine qui n'est due qu'aux enfants rebelles. Ah, votre faiblesse m'a perdue. Peut-être son respect étoufferait-il ses craintes, mais l'amour maternel les devinerait. Et les larmes de votre fille, pour être dérobées, n'en couleraient pas moins sur votre cœur. Où chercherez-vous alors vos consolations? Sera-ce dans ce fol amour, contre lequel vous auriez dû l'armer, et par qui, au contraire, vous vous serez laissé séduire? J'ignore, ma chère amie, si j'ai contre cette passion une prévention trop forte, mais je la crois redoutable, même dans le mariage. Ce n'est pas que je désapprouve qu'un sentiment honnête et doux vienne embellir le lien conjugal et adoucir en quelque sorte les devoirs qu'il impose. Mais ce n'est pas à lui qu'il appartient de le former. Ce n'est pas à l'illusion d'un moment à régler le choix de notre vie. En effet, pour choisir, il faut comparer. Et comment le pouvoir quand un seul objet nous occupe, quand celui-là même on ne peut le connaître, plongé que l'on est dans l'ivresse et l'aveuglement. J'ai rencontré, comme vous pouvez croire, plusieurs femmes atteintes de ce mal dangereux. J'ai reçu les confidences de quelques-unes. À les entendre, il n'en est point dont l'amant ne soit un être parfait. Mais ces perfections chimériques n'existent que dans leur imagination. Leur tête exaltée ne rêve qu'agréments et vertus. Elles en partent à plaisir celui qu'elles préfèrent. C'est la draperie d'un dieu, portée souvent par un modèle abject. Mais quel qu'il soit, à peine l'en ont-elles revêtu, que dupes de leur propre ouvrage, elles se prosternent pour l'adorer. Ou votre fille n'aime pas Danceny, ou elle éprouve cette même illusion. Elle est commune à tous deux si leur amour est réciproque. Ainsi, votre raison pour les unir à jamais se réduit à la certitude qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne peuvent se connaître. Mais me direz-vous, monsieur de Gercourt et ma fille se connaissent-ils davantage? Non, sans doute. Mais au moins ne s'abusent-ils pas? Ils s'ignorent seulement. Qu'arriverait-il dans ce cas entre deux époux que je suppose honnêtes? C'est que chacun d'eux étudie l'autre, s'observe vis-à-vis de lui, cherche et reconnaît bientôt ce qu'il faut qu'il cède de ses goûts et de ses volontés pour la tranquillité commune. Ces légers sacrifices se font sans peine parce qu'ils sont réciproques et qu'on les a prévus. Bientôt, ils font naître une bienveillance mutuelle. Et l'habitude, qui fortifie tous les penchants qu'elle ne détruit pas, amène peu à peu cette douce amitié, cette tendre confiance, qui, joignes à l'estime, forme, ce me semble, le véritable, le solide bonheur des mariages. Les illusions de l'amour peuvent être plus douces, mais qui ne sait aussi qu'elles sont moins durables, et quel danger n'amène pas le moment qui les détruit? C'est alors que les moindres défauts paraissent choquants et insupportables par le contraste qu'ils forment avec l'idée de perfection qui nous avait séduits. Chacun des deux époux croit cependant que l'autre seul a changé et que lui vaut toujours ce qu'un moment d'erreur l'avait fait apprécier. Le charme qu'il n'éprouve plus, il s'étonne de ne le plus faire naître, il en est humilié. La vanité blessée aigrit les esprits, augmente les torts, produit l'humeur, enfante la haine. Et de frivoles plaisirs sont payés enfin par de longues infortunes. Voilà, ma chère amie, ma façon de penser sur l'objet qui nous occupe. Je ne la défends pas, je l'expose seulement. C'est à vous de décider. Mais si vous persistez dans votre avis, je vous demande de me faire connaître les raisons qui auront combattu les miennes. Je serai bien aise de m'éclairer auprès de vous. Et surtout, d'être rassurée sur le sort de votre aimable enfant, dont je désire bien ardemment le bonheur. Et par mon amitié pour elle, et par celle qui m'unit à vous pour la vie. Paris, ce 4 octobre 1700. Lettre 105, la marquise de Merteuil à Cécile Volanges. Eh bien, petite, vous voilà donc bien fâchée, bien honteuse, et ce monsieur de Valmont est un méchant homme, n'est-ce pas? Comment? Il ose vous traiter comme la femme qu'il aimerait le mieux. Il vous apprend ce que vous mourriez d'envie de savoir. En vérité, ces procédés-là sont impardonnables. Et vous, de votre côté, vous voulez garder votre sagesse pour votre amant qui n'en abuse pas. Vous ne chérissez de l'amour que les peines et non les plaisirs. Rien de mieux. Et vous figurez à merveille dans un roman. De la passion, de la fortune, de la vertu par-dessus tout. Que de belles choses. Au milieu de ce brillant cortège, on s'ennuie quelquefois à la vérité. Mais on le rend bien. Voyez donc, la pauvre enfant, comme elle est à plaindre. Elle avait les yeux battus le lendemain. Et que direz-vous donc, quand ce seront ceux de votre amant? Allez, mon bel ange, vous ne les aurez pas toujours ainsi. Tous les hommes ne sont pas des Valmont. Et puis, ne plus oser lever ces yeux-là? Oh, par exemple, vous avez eu bien raison. Tout le monde y aurait lu votre aventure. Croyez-moi, cependant, s'il en était ainsi, nos femmes et même nos demoiselles auraient le regard plus modeste. Malgré les louanges que je suis forcée de vous donner, comme vous voyez, il faut convenir pourtant que vous avez manqué votre chef-d'œuvre. C'était de tout dire à votre maman. Vous aviez si bien commencé. Déjà, vous vous étiez jetée dans ses bras. Vous sanglotiez. Elle pleurait aussi. Quelle scène pathétique. Et quel dommage de ne l'avoir pas achevée. Votre tendre mère, toute ravie d'aise et pour aider à votre vertu, vous aurez cloîtré pour toute votre vie. Et là, vous auriez aimé Danceny tant que vous auriez voulu, sans rivaux et sans péché. Vous vous seriez désolée à votre aise. Et Valmont, à coup sûr, n'aurait pas été troublé votre douleur par de contrariants plaisirs. Sérieusement, peut-on, à 15 ans passés, être enfant comme vous l'êtes? Vous avez bien raison de dire que vous ne méritez pas mes bontés. Je voulais pourtant être votre amie. Vous en avez besoin peut-être avec la mère que vous avez et le mari qu'elle veut vous donner. Mais si vous ne vous formez pas davantage, que voulez-vous qu'on fasse de vous? Que peut-on espérer si ce qui fait venir l'esprit aux filles semble au contraire vous l'ôter? Si vous pouviez prendre sur vous de raisonner un moment, Vous trouveriez bientôt que vous devez vous féliciter au lieu de vous plaindre. Mais vous êtes honteuse, et cela vous gêne. Et tranquillisez-vous. La honte qui cause l'amour est comme sa douleur. On ne l'éprouve qu'une fois. On peut encore la feindre après, mais on ne la sent plus. Cependant, le plaisir reste, et c'est bien quelque chose. Je crois même avoir démêlé, à travers votre petit bavardage, que vous pourriez le compter pour beaucoup. Allons, un peu de bonne foi. Là, ce trouble qui vous empêchait de faire comme vous disiez, qui vous faisait trouver si difficile de se défendre, qui vous rendait comme fâché quand Valmont s'en est allé. Était-ce bien la honte qui le causait? Ou si c'était le plaisir? Et ces façons de dire auxquelles on ne sait comment répondre, cela ne viendrait-il pas de ces façons de faire? Ah, petite fille, vous mentez, et vous mentez à votre ami. Cela n'est pas bien, mais brisons-la. Ce qui pour tout le monde serait un plaisir, et pourrait n'être que cela, devient dans votre situation un véritable bonheur. En effet, placé entre une mère dont il vous importe d'être aimée, et un amant dont vous désirez de l'être toujours, comment ne voyez-vous pas que le seul moyen d'obtenir ces succès opposés est de vous occuper d'un tiers? Distraite par cette nouvelle aventure, tandis que vis-à-vis de votre maman, vous aurez l'air de sacrifier à votre soumission pour elle un goût qui lui déplaît, vous acquérez vis-à-vis de votre amant l'honneur d'une belle défense. En l'assurant sans cesse de votre amour, vous ne lui en accorderez pas les dernières preuves. Ces refus, si peu pénibles dans le cas où vous serez, il ne manquera pas de les mettre sur le compte de votre vertu. Il s'en plaindra peut-être, mais il vous en aimera davantage. Et pour avoir le double mérite, aux yeux de l'un de sacrifier l'amour, à ceux de l'autre d'y résister, il ne vous en coûtera que d'en goûter les plaisirs. Oh, combien de femmes ont perdu leur réputation, qui l'eussent conservée avec soin, si elles avaient pu la soutenir par de pareils moyens. Ce parti que je vous propose, ne vous paraît-il pas le plus raisonnable comme le plus doux? Savez-vous ce que vous avez gagné à celui que vous avez pris? C'est que votre maman a attribué votre redoublement de tristesse à un redoublement d'amour, qu'elle en est outrée, et que pour vous en punir, elle n'attend que d'en être plus sûre. Elle vient de m'en écrire. Elle tentera tout pour obtenir cet aveu de vous-même. Elle ira peut-être, me dit-elle, jusqu'à vous proposer Danceny pour époux, et cela pour vous engager à parler. Et si vous laissant séduire par cette trompeuse tendresse, vous répondiez selon votre cœur, bientôt renfermée pour longtemps, peut-être pour toujours, vous pleuriez à loisir votre aveugle crédulité. Cette ruse qu'elle veut employer contre vous, il faut la combattre par une autre. Commencez donc, en lui montrant moins de tristesse, à lui faire croire que vous songez moins à Danceny. Elle se le persuadera d'autant plus facilement que c'est l'effet ordinaire de l'absence. Et elle vous en saura d'autant plus de gré qu'elle y trouvera une occasion de s'applaudir de sa prudence qui lui a suggéré ce moyen. Mais si, conservant quelques doutes, elle persistait pourtant à vous éprouver et qu'elle vint à vous parler de mariage, renfermez-vous en fille bien née dans une parfaite soumission. Au fait, qui risquez-vous? Pour ce qu'on fait d'un mari, l'un vaut toujours bien l'autre, et le plus incommode est encore moins gênant qu'une mère. Une fois plus contente de vous, votre maman vous mariera enfin, et alors plus libre dans vos démarches, vous pourrez à votre choix quitter Valmont pour prendre Danceny, ou même les garder tous deux. Car, prenez-y garde, votre Danceny est gentil, mais c'est un de ces hommes qu'on a quand on veut et tant qu'on veut. On peut donc se mettre à l'aise avec lui. Il n'en est pas de même de Valmont. On le garde difficilement et il est dangereux de le quitter. Il faut avec lui beaucoup d'adresse, ou quand on n'en a pas, beaucoup de docilité. Mais aussi, si vous pouviez parvenir à vous l'attacher comme ami, ce serait là un bonheur. Il vous mettrait tout de suite au premier rang de toutes les femmes à la mode. C'est comme cela qu'on acquiert une consistance dans le monde, et non pas à rougir et à pleurer, comme quand vos religieuses vous faisaient dîner à genoux. Vous tâcherez donc, si vous êtes sage, de vous raccommoder avec Valmont, qui doit être très en colère contre vous. Et comme il faut savoir réparer ses sottises, ne craignez pas de lui faire quelques avances. Aussi bien apprendrez-vous bientôt que si les hommes nous font les premières, nous sommes presque toujours obligés de faire les secondes. Vous avez un prétexte pour celle-ci. car il ne faut pas que vous gardiez cette lettre, et j'exige de vous de la remettre à Valmont aussitôt que vous l'aurez lue. N'oubliez pas pourtant de la recacheter auparavant. D'abord, c'est qu'il faut vous laisser le mérite de la démarche que vous ferez vis-à-vis de lui, et qu'elle n'ait pas l'air de vous avoir été conseillée. Et puis, c'est qu'il n'y a que vous au monde dont je sois assez l'ami pour vous parler comme je fais. Adieu, bel ange. Suivez mes conseils, et vous me manderez si vous vous en trouvez bien. Post-scriptum. À propos, j'oubliais un mot encore. Voyez donc à soigner davantage votre style. Vous écrivez toujours comme un enfant. Je vois bien d'où cela vient. C'est que vous dites tout ce que vous pensez et rien de ce que vous ne pensez pas. Cela peut passer ainsi de vous à moi, qui devons n'avoir rien de caché l'une pour l'autre. Mais avec tout le monde, avec votre amant surtout, vous auriez toujours l'air d'une petite sotte. Vous voyez bien que quand vous écrivez à quelqu'un, c'est pour lui et non pas pour vous. Vous devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez que ce qui lui plaît davantage. Adieu, mon cœur. Je vous embrasse au lieu de vous gronder, dans l'espérance que vous serez plus raisonnable. Paris, ce 4 octobre 1700. Lettre 106, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. À merveille, vicomte, et pour le coup, je vous aime à la fureur. Au reste, après la première de vos deux lettres, on pouvait s'attendre à la seconde. Aussi ne m'a-t-elle point étonnée. Et tandis que déjà fière de vos succès à venir, vous en sollicitiez la récompense et que vous me demandiez si j'étais prête, je voyais bien que je n'avais pas tant besoin de me presser. Oui, d'honneur. En lisant le beau récit de cette scène tendre et qui vous avait si vivement ému, en voyant votre retenue digne des plus beaux temps de notre chevalerie, j'ai dit 20 fois, voilà une affaire manquée. Mais c'est que cela ne pouvait pas être autrement. Que voulez-vous que fasse une pauvre femme qui se rend et qu'on ne prend pas? Ma foi, dans ce cas-là, il faut au moins sauver l'honneur. Et c'est ce qu'a fait notre présidente. Je sais bien que pour moi, qui ai senti que la marche qu'elle a prise n'est vraiment pas sans quelque effet, je me propose d'en faire usage, pour mon compte, à la première occasion un peu sérieuse qui se présentera. Mais je promets bien que si celui pour qui j'en ferai les frais n'en profite pas mieux que vous, il peut assurément renoncer à moi pour toujours. Vous voilà donc absolument réduite à rien, et cela entre deux femmes, dont l'une était déjà au lendemain, et l'autre ne demandait pas mieux que d'y être. Eh bien, vous allez croire que je me vante, et dire qu'il est facile de prophétiser après l'événement, mais je peux vous jurer que je m'y attendais. C'est que réellement, vous n'avez pas le génie de votre état. Vous n'en savez que ce que vous en avez appris, et vous n'inventez rien. Aussi, dès que les circonstances ne se prêtent plus à vos formules d'usage, et qu'il vous faut sortir de la route ordinaire, vous restez court comme un écolier. Enfin, un enfantillage d'une part, de l'autre un retour de pruderie, parce qu'on ne les éprouve pas tous les jours, suffisent pour vous déconcerter. Et vous ne savez ni les prévenir, ni y remédier. Ah, vicomte, vicomte, vous m'apprenez à ne pas juger les hommes par leur succès. Et bientôt il faudra dire de vous, il fut brave un tel jour. Et quand vous avez fait sottise sur sottise, vous recourez à moi. Il semble que je n'ai rien autre chose à faire que de les réparer. Il est vrai que ce serait bien assez d'ouvrage. Quoi qu'il en soit, de ces deux aventures, l'une est entreprise contre mon gré et je ne m'en mêle point. Pour l'autre, comme vous y avez mis quelque complaisance pour moi, j'en fais mon affaire. La lettre que je joins ici, que vous lirez d'abord et que vous remettrez ensuite à la petite Volange, est plus que suffisante pour vous la ramener. Mais je vous en prie, donnez quelques soins à cet enfant, et faisons-en de concert le désespoir de sa mère et de Gercourt. Il n'y a pas à craindre de forcer les doses. Je vois clairement que la petite personne n'en sera point effrayée. Et nos vues sur elle, une fois remplies, elle deviendra ce qu'elle pourra. Je me désintéresse entièrement sur son compte. J'avais eu quelque envie d'en faire au moins une intrigante subalterne, et de la prendre un jour pour jouer les seconds sous moi. Mais je vois qu'il n'y a pas d'étoffe. Elle a cette sotte ingénuité qui n'a pas cédé même au spécifique que vous avez employé, lequel pourtant n'en manque guère. Et c'est selon moi la maladie la plus dangereuse que femme puisse avoir. Elle dénote surtout une faiblesse de caractère presque toujours incurable et qui s'oppose à tout. De sorte que, tandis que nous nous occuperions à former cette petite fille pour l'intrigue, nous n'en ferions qu'une femme facile. Or, je ne connais rien de si plat que cette facilité de bêtise, qui se rend sans savoir ni comment, ni pourquoi, uniquement parce qu'on l'attaque et qu'elle ne sait pas résister. Ces sortes de femmes ne sont absolument que des machines à plaisir. Vous me direz qu'il n'y a qu'à en faire que cela, et que c'est assez pour nos projets. À la bonne heure. Mais n'oublions pas que de ces machines-là, tout le monde parvient bientôt à en connaître les ressorts et les moteurs. Ainsi que pour se servir de celle-ci sans danger, il faut se dépêcher, s'arrêter de bonne heure et la briser ensuite. À la vérité, les moyens ne nous manqueront pas pour nous en défaire, et Gercourt la fera toujours bien enfermer quand nous voudrons. Au fait, quand il ne pourra plus douter de sa déconvenue, quand elle sera bien publique et bien notoire, que nous importe qu'il se venge, pourvu qu'il ne se console pas. Ce que je dis du mari, vous le pensez sans doute de la mère. Ainsi, cela vaut fait. Ce parti que je crois le meilleur et auquel je me suis arrêtée m'a décidé à mener la jeune personne un peu vite, comme vous verrez par ma lettre. Cela rend aussi très important de ne rien laisser entre ses mains qui puisse nous compromettre. Et je vous prie d'y avoir attention. Cette précaution, une fois prise, je me charge du moral. Le reste vous regarde. Si pourtant nous voyons par la suite que l'ingénuité se corrige, nous serons toujours à temps de changer de projet. Il n'en aurait pas moins fallu, un jour ou l'autre, nous occuper de ce que nous allons faire. Dans aucun cas nos soins ne seront perdus. Savez-vous que les miens ont risqué de l'être, et que l'étoile de Gercourt a pensé l'emporter sur ma prudence ? Madame de Volanges n'a-t-elle pas eu un moment de faiblesse maternelle ? Ne voulait-elle pas donner sa fille à Danceny ? C'était là ce qu'annonçait cet intérêt plus tendre que vous aviez remarqué le lendemain. C'est encore vous qui auriez été cause de ce beau chef-d'œuvre. Heureusement, la tendre mère m'en a écrit, et j'espère que ma réponse l'en dégoûtera. J'y parle tant de vertu, et surtout, je la cajole tant qu'elle doit trouver que j'ai raison. Je suis fâchée de n'avoir pas eu le temps de prendre copie de ma lettre pour vous édifier sur l'austérité de ma morale. Vous verriez comment je méprise les femmes assez dépravées pour avoir un amant. Il est si commode d'être rigoriste dans ses discours. Cela ne nuit jamais qu'aux autres et ne nous gêne aucunement. Et puis je n'ignore pas que la bonne dame a eu ses petites faiblesses comme une autre dans son jeune temps. Et je n'étais pas fâchée de l'humilier au moins dans sa conscience. Cela me consolait un peu des louanges que je lui donnais contre la mienne. C'est ainsi que dans la même lettre, l'idée de nuire à Gercourt m'a donné le courage d'en dire du bien. Adieu, vicomte. J'approuve beaucoup le parti que vous prenez de rester quelque temps où vous êtes. Je n'ai point de moyens pour hâter votre marche, mais je vous invite à vous désennuyer avec notre commune pupille. Pour ce qui est de moi, malgré votre citation polie, vous voyez bien qu'il faut encore attendre. Et vous conviendrez sans doute que ce n'est pas ma faute. Paris, ce 4 octobre 1700. Lettre 107, Azolan au vicomte de Valmont. Monsieur, conformément à vos ordres, j'ai été, aussitôt la réception de votre lettre, chez Monsieur Bertrand, qui m'a remis les 25 louis comme vous lui aviez ordonné. Je lui en avais demandé 2 de plus pour Philippe, à qui j'avais dit de partir sur le champ, comme monsieur me l'avait demandé et qui n'avait pas d'argent. Mais monsieur votre homme d'affaires n'a pas voulu, en disant qu'il n'avait pas d'ordre de ça de vous. J'ai donc été obligée de les donner de moi, et monsieur m'en tiendra compte, si c'est sa bonté. Philippe est parti hier au soir. Je lui ai bien recommandé de ne pas quitter le cabaret, afin qu'on puisse être sûr de le trouver si on en a besoin. J'ai été tout de suite après chez madame la présidente pour voir mademoiselle Julie. Mais elle était sortie, et je n'ai parlé qu'à la fleur, de qui je n'ai rien pu savoir, parce que depuis son arrivée, il n'avait été à l'hôtel qu'à l'heure des repas. C'est le second qui a fait tout le service, et monsieur sait bien que je ne connaissais pas celui-là. Mais j'ai commencé aujourd'hui. Je suis retournée ce matin chez mademoiselle Julie, et elle a paru bien aise de me voir. Je l'ai interrogée sur la cause du retour de sa maîtresse, mais elle m'a dit n'en rien savoir, et je crois qu'elle a dit vrai. Je lui ai reproché de ne pas m'avoir avertie de son départ, et elle m'a assuré qu'elle ne l'avait su que le soir même en allant coucher madame. Si bien qu'elle a passé toute la nuit à ranger, et que la pauvre fille n'a pas dormi 2 heures. Elle n'est sortie ce soir-là de la chambre de sa maîtresse qu'à 1 heure passée, et elle l'a laissée qui se mettait seulement à écrire. Le matin, Madame de Tourvel, en partant, a remis une lettre au concierge du château. Mademoiselle Julie ne sait pas pour qui. Elle dit que c'était peut-être pour monsieur, mais monsieur ne m'en parle pas. Pendant tout le voyage, Madame a eu un grand capuchon sur sa figure, ce qui faisait qu'on ne pouvait la voir. Mais Mademoiselle Julie croit être sûre qu'elle a pleuré souvent. Elle n'a pas dit une parole pendant la route, et elle n'a pas voulu s'arrêter à « comme elle avait fait en allant ». Ce qui n'a pas trop fait plaisir à Mademoiselle Julie qui n'avait pas déjeuné. Mais, comme je lui ai dit, les maîtres sont les maîtres. En arrivant, Madame s'est couchée, mais elle n'est restée au lit que 2 heures. En se levant, elle a fait venir son Suisse et lui a donné ordre de ne laisser entrer personne. Elle n'a point fait de toilette du tout. Elle s'est mise à table pour dîner, mais elle n'a mangé qu'un peu de potage, et elle en est sortie tout de suite. On lui a porté son café chez elle, et Mademoiselle Julie est entrée en même temps. Elle a trouvé sa maîtresse qui rangeait des papiers dans son secrétaire, et elle a vu que c'était des lettres. Je parierais bien que ce sont celles de monsieur. Et des 3 qui lui sont arrivées dans l'après-midi, il y en a une qu'elle avait encore devant elle tout au soir. Je suis bien sûre que c'est encore une de monsieur. Mais pourquoi donc est-ce qu'elle s'en est allée comme ça? Ça m'étonne, moi. Au reste, sûrement que monsieur le sait bien, et ce ne sont pas mes affaires. Madame la présidente est allée de l'après-midi dans la bibliothèque, et elle y a pris 2 livres qu'elle a emportés dans son boudoir. Mais Mademoiselle Julie assure qu'elle n'a pas lu dedans 1 quart d'heure dans toute la journée, et qu'elle n'a fait que lire cette lettre, rêver, et être appuyée sur sa main. Comme j'ai imaginé que monsieur serait bien aise de savoir quels sont ces livres-là, et que Mademoiselle Julie ne le savait pas, je me suis fait mener aujourd'hui dans la bibliothèque sous prétexte de la voir. Il n'y a de vide que pour 2 livres. L'un est le second volume des Pensées chrétiennes, et l'autre, le premier d'un livre qui a pour titre Clarisse. J'écris bien comme il y a. Monsieur saura peut-être ce que c'est. Hier au soir, Madame n'a pas soupé. Elle n'a pris que du thé. Elle a sonné de bonne heure ce matin. Elle a demandé ses chevaux tout de suite. Et elle a été avant 9 heures au Feuillant, où elle a entendu la messe. Elle a voulu se confesser, mais son confesseur était absent. Et il ne reviendra pas de 8 à 10 jours. J'ai cru qu'il était bon de demander cela à monsieur. Elle est rentrée ensuite, elle a déjeuné, et puis s'est mise à écrire, et elle y est restée jusqu'à près 1 heure. J'ai trouvé occasion de faire bientôt ce que monsieur désirait le plus, car c'est moi qui portais les lettres à la poste. Il n'y en avait pas pour Madame de Volanges, mais j'en envoie une à monsieur qui était pour monsieur le président. Il m'a paru que ce devait être la plus intéressante. Il y en avait une aussi pour Madame de Rosemonde, mais j'ai imaginé que monsieur la verrait toujours bien quand il voudrait, et je l'ai laissée partir. Au reste, monsieur saura bien tout, puisque Madame la présidente lui écrit aussi. J'aurai par la suite toutes celles qu'il voudra, car c'est presque toujours Mademoiselle Julie qui les remet aux gens, et elle m'a assuré que, par amitié pour moi, et puis aussi pour monsieur, elle ferait volontiers ce que je voudrais. Elle n'a pas même voulu de l'argent que je lui ai offert, mais je pense bien que monsieur voudra lui faire quelques petits présents, et si c'est sa volonté et qu'il veuille m'en charger, je saurai aisément ce qui lui fera plaisir. J'espère que monsieur ne trouvera pas que j'ai mis de la négligence à le servir, et j'ai bien à cœur de me justifier des reproches qu'il me fait. Si je n'ai pas su le départ de Madame la présidente, c'est au contraire mon zèle pour le service de monsieur qui en est cause, puisque c'est lui qui m'a fait partir à 3 heures du matin, ce qui fait que je n'ai pas vu Mademoiselle Julie la veille au soir, comme de coutume, ayant été couchée au tournebride pour ne pas réveiller dans le château. Quant à ce que monsieur me reproche d'être souvent sans argent, d'abord, c'est que j'aime à me tenir proprement, comme monsieur peut voir. Et puis, il faut bien soutenir l'honneur de l'habit qu'on porte. Je sais bien que je devrais peut-être un peu épargner pour la suite, mais je me confie entièrement dans la générosité de monsieur, qui est si bon maître. Pour ce qui est d'entrer au service de Madame de Tourvel en restant à celui de monsieur, j'espère que monsieur ne l'exigera pas de moi. C'était bien différent chez Madame la Duchesse, mais assurément, je n'irai pas porter la livrée, et encore une livrée de robe, après avoir eu l'honneur d'être chasseur de monsieur. Pour tout ce qui est du reste, monsieur peut disposer de celui qui a l'honneur d'être avec autant de respect que d'affection, son très humble serviteur. Roux-Azolan, chasseur. Paris, ce 5 octobre 1700, à 11 heures du soir. Lettre 108, la présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. « Oh, mon indulgente mère, que j'ai de grâce à vous rendre et que j'avais besoin de votre lettre. Je l'ai lue et relue sans cesse, je ne pouvais pas m'en détacher. Je lui dois les seuls moments moins pénibles que j'ai passés depuis mon départ. Comme vous êtes bonne. La sagesse, la vertu, savent donc compatir à la faiblesse. Vous avez pitié de mes maux. Ah, si vous les connaissiez, ils sont affreux. Je croyais avoir éprouvé les peines de l'amour, mais le tourment inexprimable, celui qu'il faut avoir senti pour en avoir l'idée, c'est de se séparer de ce qu'on aime, de s'en séparer pour toujours. Oui, la peine qui m'accable aujourd'hui reviendra demain, après-demain, toute ma vie. Mon Dieu, que je suis jeune encore et qu'il me reste de temps à souffrir. Être soi-même l'artisan de son malheur, se déchirer le cœur de ses propres mains, et tandis qu'on souffre ces douleurs insupportables, sentir à chaque instant qu'on peut les faire cesser d'un mot, et que ce mot soit un crime. Ah, mon ami, quand j'ai pris ce parti si pénible de m'éloigner de lui, j'espérais que l'absence augmenterait mon courage et mes forces. Combien je me suis trompée. Il semble au contraire qu'elle ait achevé de les détruire. Je n'ai plus à combattre, il est vrai, mais même en résistant, tout n'était pas privation. Au moins je le voyais quelquefois. Souvent même, sans oser porter mes regards sur lui, je sentais les siens fixés sur moi. Oui, mon ami, je le sentais. Il semblait qu'il réchauffasse mon âme. Et sans passer par mes yeux, il n'en arrivait pas moins à mon cœur. À présent, dans ma pénible solitude, isolée de tout ce qui m'est cher, tête à tête avec mon infortune, tous les moments de ma triste existence sont marqués par les larmes, et rien n'en adoucit l'amertume. Nulle consolation ne se mêle à mes sacrifices. Et ce que j'ai fait jusqu'à présent n'ont servi qu'à me rendre plus douloureux ce qui me reste à faire. Hier encore, je l'ai bien vivement senti. Dans les lettres qu'on m'a remises, il y en avait une de lui. On était encore à deux pas de moi que je l'avais reconnu entre les autres. Je me suis levée involontairement. Je tremblais. J'avais peine à cacher mon émotion. Et cet état n'était pas sans plaisir. Restée seule le moment d'après, cette trompeuse douceur s'est bientôt évanouie et ne m'a laissé qu'un sacrifice de plus à faire. En effet, pouvais-je ouvrir cette lettre que pourtant je brûlais de lire? Par la fatalité qui me poursuit, les consolations qui paraissent se présenter à moi ne font, au contraire, que m'imposer de nouvelles privations, et celles-ci deviennent plus cruelles encore par l'idée que M. de Valmont les partage. Le voilà enfin, ce nom qui m'occupe sans cesse et que j'ai eu tant de peine à écrire. L'espèce de reproche que vous m'en faites m'a véritablement alarmée. Je vous supplie de croire qu'une fausse honte n'a point altéré ma confiance en vous. Et pourquoi craindrais-je de le nommer? Ah, je rougis de mes sentiments et non de l'objet qui les cause. Quel autre que lui est plus digne de les inspirer? Cependant, je ne sais pourquoi ce nom ne se présente point naturellement sous ma plume. Et cette fois encore, j'ai eu besoin de réflexion pour le placer. Je reviens à lui. Vous me demandez qu'il vous a paru vivement affecté de mon départ. Qu'a-t-il donc fait? Qu'a-t-il dit? A-t-il parlé de revenir à Paris? Je vous prie de l'en détourner autant que vous pourrez. S'il m'a bien jugé, il ne doit pas m'en vouloir de cette démarche. Mais il doit sentir aussi que c'est un parti pris sans retour. Un de mes plus grands tourments est de ne pas savoir ce qu'il pense. J'ai bien encore là sa lettre, mais vous êtes sûrement de mon avis, je ne dois pas l'ouvrir. Ce n'est que par vous, mon indulgente amie, que je puis ne pas être entièrement séparée de lui. Je ne veux pas abuser de vos bontés. Je sens à merveille que vos lettres ne peuvent pas être longues. Mais vous ne refuserez pas deux mots à votre enfant, un pour soutenir son courage et l'autre pour l'en consoler. Adieu, ma respectable amie. Paris, ce 5 octobre 1700. Lettre 109, Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Ce n'est que d'aujourd'hui, madame, que j'ai remis à M. de Valmont la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je l'ai gardée 4 jours, malgré les frayeurs que j'avais souvent qu'on ne la trouvât, mais je la cachais avec bien du soin. et quand le chagrin me reprenait, je m'enfermais pour la relire. Je vois bien que ce que je croyais un si grand malheur n'en est presque pas un, et il faut avouer qu'il y a bien du plaisir, de façon que je ne m'afflige presque plus. Il n'y a que l'idée de Danceny qui me tourmente toujours quelquefois. Mais il y a déjà tout plein de moments où je n'y songe pas du tout. Aussi, c'est que M. de Valmont est bien aimable. Je me suis raccommodée avec lui depuis 2 jours. Ça m'a été bien facile, car je ne lui avais encore dit que 2 paroles, qu'il m'a dit que si j'avais quelque chose à lui dire, il viendrait le soir dans ma chambre. Et je n'ai eu qu'à répondre que je le voulais bien. Et puis, dès qu'il y a été, il n'a pas paru plus fâché que si je ne lui avais jamais rien fait. Il ne m'a grondé qu'après, encore bien doucement. Et c'était d'une manière, tout comme vous, ce qui m'a prouvé qu'il avait aussi bien de l'amitié pour moi. Je ne saurais vous dire combien il m'a raconté de drôles de choses, et que je n'aurais jamais cru, particulièrement sur maman. Vous me feriez bien plaisir de me demander si tout ça est vrai. Ce qui est bien sûr, c'est que je ne pouvais pas me retenir de rire, si bien qu'une fois, j'ai ri aux éclats, ce qui nous a fait bien peur, car maman aurait pu entendre. Et si elle était venue voir, qu'est-ce que je serais devenue? C'est bien pour le coup qu'elle m'aurait remise au couvent. Comme il faut être prudent, et que comme M. de Valmont m'a dit lui-même, pour rien au monde il ne vaudrait risquer de me compromettre, nous sommes convenus que dorénavant, il viendrait seulement ouvrir la porte, et que nous irions dans sa chambre. Pour là, il n'y a rien à craindre. J'y ai déjà été hier, et actuellement que je vous écris, j'attends encore qu'il vienne. À présent, madame, j'espère que vous ne me gronderez plus. Il y a pourtant une chose qui m'a bien surprise dans votre lettre. C'est que vous me demandez pour quand je serai mariée au sujet de Danceny et de M. de Valmont. Il me semble qu'un jour à l'opéra, vous me disiez au contraire qu'une fois mariée, je ne pouvais plus aimer que mon mari et qu'il me faudrait même oublier Danceny. Au reste, peut-être que j'avais mal entendu et j'aime bien mieux que cela soit autrement. Car à présent, je ne craindrai plus tant le moment de mon mariage. Je le désire même, puisque j'aurai plus de liberté. J'espère qu'alors je pourrai m'arranger de façon à ne plus songer qu'à Danceny. Je sens bien que je ne serai véritablement heureuse qu'avec lui. Car à présent, son idée me tourmente toujours. Et je n'ai de bonheur que quand je peux ne pas penser à lui, ce qui est bien difficile. Et dès que j'y pense, je redeviens chagrine tout de suite. Ce qui me console un peu, c'est que vous m'assurez que Danceny m'en aimera davantage. Mais en êtes-vous bien sûr? Oh oui, vous ne voudriez pas me tromper. C'est pourtant plaisant que ce soit Danceny que j'aime, et que M. de Valmont... Mais comme vous dites, c'est peut-être un bonheur. Enfin, nous verrons. Je n'ai pas trop entendu ce que vous me marquez au sujet de ma façon d'écrire. Il me semble que Danceny trouve mes lettres bien comme elles sont. Je sens pourtant bien que je ne dois rien lui dire de tout ce qui se passe avec M. de Valmont. Ainsi, vous n'avez rien que faire de craindre. Maman ne m'a point encore parlé de mon mariage. Mais laissez faire. Quand elle m'en parlera, puisque c'est pour m'attraper, je vous promets que je saurai mentir. Adieu, ma bien bonne amie. Je vous remercie bien. Et je vous promets que je n'oublierai jamais toutes vos bontés pour moi. Il faut que je finisse, car il est près 1 heure. Ainsi, M. de Valmont ne doit pas tarder. Du château de ce 10 octobre 1700.